Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au balado de la revue de cinéma 24 images. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et aujourd'hui à l'émission, Mathieu Ligoyette vient nous parler de l'œuvre et de la carrière du cinéaste d'animation japonais Eiichi Yamamoto, auteur notamment du classique culte La Belladonna de la Tristesse. Mais tout d'abord, je suis avec le rédacteur en chef de 24 images, Bruno Dequin, pour jaser du plus récent James Bond qui s'intitule No Time to Die et qui vient tout juste de sortir en salle. Bonjour Bruno.
Salut Alexandre.
Bon, fait que je pense que tout le monde ou presque connaît le personnage créé par Ian Fleming en 1953. Alors, je suis pas trop sûr qu'on soit obligé d'expliquer à nos auditeurs que c'est un agent secret britannique qui aime ses martinis au shaker, pas à la cuillère. Mais ce qui fait, selon moi, que c'est toujours intéressant de se pencher sur un nouveau James Bond, c'est que c'est une franchise populaire où la tension entre la tradition et l'évolution, c'est fondamental, en raison justement de la longévité de la franchise. Puis c'est pas seulement dans la mesure où les films répondent aux modes cinématographiques de leur époque, là, par exemple, quand Roger Moore aboutit dans un film de kung-fu, de science-fiction, parce que les producteurs pensent que c'est ça que les gens veulent voir cette année-là. On peut vraiment prendre les James Bond comme une sorte d'indicateur plus ou moins réactionnaire selon les époques, des grandes tendances sociales, des mouvements de fond géopolitiques. Puis le fait de pouvoir les inscrire dans une histoire qui fait désormais 60 ans, ça leur donne immédiatement une sorte d'épaisseur ou de densité à laquelle la plupart des blockbusters peuvent pas accéder. Puis même ça, si ça reste des films assez classiques, peu importe ce qu'on essaye de faire pour renouveler la recette. Puis à ce niveau-là, je pense que No Time to Die, il est d'emblée intéressant parce qu'il vient clôturer ce qui est peut-être l'ère la plus importante de l'histoire de la franchise, c'est-à-dire le règne quand même fondamentalement marquant, je pense on peut le dire, de Daniel Craig. Là.
Oui, tout à fait. Mais en fait, pour rebondir sur ce que tu disais, il y a aussi le fait que, si je ne me trompe pas, James Bond, c'est probablement la seule franchise qui se soit jamais arrêtée réellement depuis genre 50 ans.
Oui, même si on peut presque dire que la pause entre les années 80 et les années 90, je pense qu'il y a des gens qui se demandaient s'il y aurait un nouveau James Bond après Timothy Dalton.
C'est clair, mais quand on y repense, elle n'était pas si longue que ça, en fait. Là, il y a eu peut-être moins de pauses entre Timothy Dalton, je pense que son dernier, c'est en 89. Mm-hmm. Et avec GoldenEye, il y a eu quasiment autant de
je pense que c'est 95, GoldenEye.
Chose comme ça.
Donc effectivement, peut-être qu'il y a une aussi longue pause entre Timothy Dalton puis les deux derniers, Daniel Craig.
C'est un peu ça, là, ouais, parce que Daniel Craig, en fait, c'est pas lui qui a incarné James Bond le plus de fois. Là. C'est encore Roger Moore qui demeure le numéro 1 avec 7 incarnations de James Bond. Mais certainement, ce film-là, c'est probablement le James Bond le plus attendu. Depuis GoldenEye au moins, qui renouvelait, comme tu le disais à l'époque, ou en tout cas qui ressuscitait la franchise. Et il y avait des attentes démesurées. Les attentes démesurées, elles étaient reliées au fait que c'est une production qui a été vraiment retardée à de multiples reprises. Elle a été retardée dès le début parce que le film devait être réalisé par Danny Boyle, qui avait dirigé d'ailleurs Daniel Craig dans un spot des Jeux Olympiques là, à l'époque à Londres, où justement il jouait James Bond qui allait rencontrer la reine d'Angleterre. Et ça s'est fait sur fond de désaccords créatifs. Alors ça, c'est jamais une très très bonne nouvelle pour les amateurs, parce que tout le monde se dit que, bon, ok, il n'a pas fait que des chefs-d'œuvre là, Danny Boyle, mais a priori, si ce réalisateur qui a toujours eu envie de faire un James Bond finit par quitter, c'est pas forcément bon signe. Il y a eu ensuite l'embauche de Kari Joji Fukunaga, je vais pas dire une bêtise, là, mais le réalisateur de True Detective, donc qui est pas quelqu'un qu'on connaît particulièrement. Je pense que ça doit être pas loin d'être son premier film. Là,
il a fait Beast of No Nation aussi.
C'est vrai, il a fait un film pour Netflix aussi, mais c'est quelqu'un qu'on connaît plus via la télé. Mm-hmm. Lui a été embauché là-dessus. Il y a eu après l'embauche de Phoebe Waller-Bridge, dont on a déjà parlé plusieurs fois lors du balado, pour aider, entre guillemets, au scénario. Donc ça aussi, on se dit, OK, il doit y avoir des problèmes à peu près à tout niveau sur ce film-là. Pour finir par avoir une sortie qui est repoussée d'un an, avec tout ce que ça implique évidemment, parce que bon, le coût marketing d'un James Bond, c'est pas le coût marketing d'un Denis Coté, ce qui fait que forcément si on double ça, c'est quand même assez important. Et surtout le truc le plus important, c'était le mandat de clore le cycle Daniel Craig, qui demeure, comme tu le disais, vraiment important et surtout complètement singulier dans l'univers de James Bond, puisqu'il est le seul à avoir abandonné le format épisodique. On se rappelle, là, les James Bond, chaque film était conçu comme une aventure isolée, pour une forme sérielle qui est hyper à la mode de nos jours. Donc on fait une histoire qui se continue de film en film. C'est le mode des franchises actuelles. Donc c'est le temps de dresser le double bilan, en fait. Celui du film en tant que tel, ça c'est une chose. Puis aussi de toute la période Craig, et pour voir un peu quelle est la pertinence maintenant de la franchise. Donc c'est un peu une grosse mission, là, le balado.
Puis je trouve ça intéressant aussi, parce que No Time to Die, dans le contexte de notre époque, c'est aussi le premier blockbuster international dont la sortie avait été officiellement retardée en raison de la pandémie. Là, je me souviens que mon père m'avait appelé avec un air un peu paniquant en me demandant ce qui allait arriver au nouveau James Bond. Puis ça, c'était quand même il y a presque 2 ans. Aussi sur une note plus personnelle, c'est le premier blockbuster que j'allais voir en salle depuis la pandémie. Alors, pour moi, c'est une expérience relativement intense, ce nouveau James Bond-là. Là, je t'avoue que je ne m'attendais pas nécessairement à ce que ça me fasse autant de quoi comme ça, mais à chaque plan de voiture qui flippait, ça me faisait un peu l'effet d'un train qui rentre dans une gare. Puis même la bande-annonce du nouveau Roland Emmerich, je suis comme « Oh, wow, c'est un moonfall, ça se passe ». Donc, peut-être que ma réception du film est un peu teintée de ça, mais comme tu dis, c'est un film qui vient clore l'ère Craig, mais aussi, il y a quelque chose, pour moi, il vient un peu comme, c'est un peu, il vient boucler la boucle de l'ère covidienne du blockbuster. Puis je sais que toi, tu as tes réserves, mais somme toute, je trouve quand même que le film est à la hauteur de ces attentes-là, pour peu qu'on arrive à les modérer un peu. Là. C'est quand même un film qui vient juste après Spectre, qui reste le moins réussi des James Bond de l'ère Craig, selon moi. Puis c'est quand même un film qui livre la marchandise en tant que film d'action contemporain, solidement mis en scène, aussi en tant que conclusion à l'ère Craig, mais c'est aussi en tenant compte du fait que c'est un peu un blockbuster un peu effectivement repatché, comme tu disais, là, qui doit gérer en même temps un historique de production compliqué, un cahier de charge relativement loadé, puis ça fait beaucoup pour un seul film. Puis disons, je pense que c'est peut-être un peu cette espèce de surabondance-là qui peut expliquer certaines des lacunes du film.
Ben c'est possible. Ce qui est certain, c'est que quand on regarde un James Bond, en fait, on ne regarde pas un film. On s'entend, on regarde un James Bond. Donc c'est sûr qu'on ne va jamais le regarder comme un film d'action régulier, comme on regarderait un nouveau film qui n'est pas une franchise, etc. On regarde un James Bond. Puis bon, là, il y a plusieurs constatations. Moi, effectivement, j'avais quelques déceptions, des trucs que j'ai bien aimés. La première constatation, c'est que le titre No Time to Die, il est quand même un peu ironique parce que le film prend clairement son temps. Là, pour,
je suis d'accord avec moi, ça, en le voyant, c'était 2h40-là, ouais. En théorie, j'étais comme, ah non, ils ont réussi à faire un Marvel d'un James Bond, mais finalement, je trouve pas que c'est une durée qui se ressent tant que ça. Là. Je trouve que le film, finalement, la porte relativement bien, pour ma part. Là.
Pour moi, oui, effectivement, jusqu'à la dernière partie, en fait. Là. Parce que si on veut résumer un peu le film, là, on va pas faire de gros divulgateurs ou quoi que ce soit, là, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Mais le film, il se déroule en 4 temps, si on veut. Là. Il y a un prologue qui est assez long, d'ailleurs, et inhabituellement long pour un James Bond.
Mais qui est excellent, cela dit. Là,
qui est vraiment bien.
C'est,
ouais.
C'est fou. Pour ça, je trouve que si tu embarques dans ce film-là, c'est comme... Ça part.
Ah non, exact. Moi, j'étais ben content. Là, j'étais dans le film là, pendant les deux premières parties. Là. Le prologue et puis après le retour en mission. Là, parce que James Bond, il va finir. Le James Bond de l'ère Craig finit toujours par, à peu près dans tous les films, vouloir abandonner pour finir par retourner à ses vieilles amours d'agent secret. Là. Il y a des révélations, ça c'est assez long. Et après, un dénouement qui est totalement interminable. Et que, là, c'est là où moi, j'ai particulièrement senti le 2h43. Là. Je trouve que le double prologue, il est super inspiré, effectivement, très dynamique. Le film commence sans James. C'est tout à fait dans l'esprit des années Craig, là, de faire quelque chose qui est en train de renouveler un peu la franchise et de ne pas faire l'éternel prologue avec une petite séquence d'action avec James Bond. Et toute la séquence d'action, en fait, assez émotive en Italie, avec des cascades improbables, super bien filmées, que tu as dû adorer pour ton premier retour au blockbuster. Là,
non, non, comme je te l'ai dit, ça, c'était quelque chose. Voilà. C'était vraiment des bonnes séquences d'action. Là. Je dirais que... Je m'attendais à ça, puis en même temps, j'ai quand même été surpris par la qualité aussi. Il y a des cadrages vraiment intéressants. Je trouve que le film est quand même visuellement assez réussi dans l'ensemble, là. Pas juste en tant que grosse machine huilée, ouais. Mais aussi en tant qu'objet plein de set pieces un peu géométriques, très calculés, très bien pensés. Je trouve que c'est en même temps très lisible et assez esthétisé comme esthétique d'action. Là.
Mais c'est pas consistant, par contre. Et ça, c'est typique de ce film-là, en fait. Il y a des séquences, comme tu le mentionnes, là, au début, notamment... On sent vraiment qu'il y a une réelle mise en scène. Et puis, encore une fois, ça venait avec les attentes. Là. C'est un réalisateur qu'on ne connaît pas particulièrement, qui a été à la télé. Donc, on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui est une superstar du cinéma international. Et il y a vraiment, vraiment des choses très, très, très bien foutues dans la première partie et un peu réparties dans le film, entrecoupées de plein de séquences qui ont clairement l'air d'avoir été filmées par l'équipe B, beaucoup plus générique, mais ça c'est le cas de tous les James Bond, hein. Je veux dire, faut pas critiquer outre mesure là-dessus, là. Dire, ils fonctionnent tous un peu sur ce mode-là, là. Mais disons que les 40 premières minutes, tout va bien, d'accord, il y a un petit générique, cette fois-ci c'est Billie Eilish là, qui sonne un peu comme Adele sous Prozac, là. Même beaucoup de Prozac, qui nous indique que ça va pas rester là, mais pour l'instant c'est vraiment pas mal, mais après, encore une fois, il y a l'inévitable retour en mission de l'agent. Et là, c'est pareil, Craig incarne vraiment à merveille pour moi le Bond, James Bond retraité, actif, mais quand même un peu semi-dépressif, parce que finalement, il n'a aucun objectif dans la vie. En Jamaïque, clin d'œil évidemment au roman, puisqu'il commençait en Jamaïque. On a le droit un peu de temps après aussi à un des meilleurs moments du film, lors d'un passage à Cuba, où il doit travailler avec une jeune agente, aussi rigolote qu'efficace, là, qui est interprétée par Ana de Armas, qui avait déjà travaillé avec Craig sur Knives Out. Donc on sent qu'il y a comme une chimie qui était déjà établie. Et ça, pour moi, c'est... Et pour beaucoup de personnes, en fait, je lisais un peu de commentaires, c'est quelque chose qui les a marqués dans le film, parce que ce personnage-là apparaît, quoi, un gros maximum de 10 minutes, là, on va dire, à peu près, et tu le regrettes après, pendant tout le film, parce que c'est un peu pour ça que tu vas voir un James Bond. C'est drôle, c'est divertissant, c'est bourré d'action, cette séquence-là, c'est sexy, mais il n'y a pas les malaises involontairement misogynes de plein de James Bond qui avait été fait dans les années 60 et même clairement 70, 80, 90. Pour moi, ça représente le James Bond du 21e siècle. C'est qu'on espérait avec Daniel Craig et ça marche vraiment bien. Là où ça se gâte pour moi, c'est la suite, parce que d'une part, il y a la forme sérielle, là, donc le fait de devoir continuer cette histoire qui dure depuis Casino Royale, qui impose le retour de personnages dont les scénaristes ne savent pas trop quoi faire, en fait. Et ça, c'est là où on voit des trucs qui sont contre nature pour James Bond. Donc, Blofeld réapparaît dans une interminable scène qui imite de façon un peu ridicule le silence des agneaux. C'est pas suffisamment drôle pour être ironique. C'est beaucoup trop long pour être réellement prenant. Et surtout, je veux dire, le film repose sur la relation supposément mémorable entre James puis Madeleine, qui était la Bond girl interprétée par Léa Seydoux dans le précédent film, qui malheureusement a assez peu de chimie pour moi. Là, c'est bien simple, là, j'étais plus ému au début du film en le voyant devant la tombe de Vesper, qui était son amour dans Casino Royale. Ça dure 30 secondes, j'étais plus ému que tout le reste du film, à peu de choses près. Mais là où le bas blesse le plus pour moi, c'est la tendance à faire une sorte de pas en arrière en remettant de l'avant, sans conviction, des figures usées de James Bond qui marchent pas tellement en fait à l'ère Craig en tant que tel. Donc le fait de ramener... Ça, je pense que même toi qui as vraiment clairement préféré le film à moi, là, je veux dire, mais tout le monde peut s'entendre pour dire que le méchant de ce film-là, c'est probablement un des moins mémorables, un des plus plates de toute l'histoire de James Bond. Là, il n'est même pas suffisamment absurde et drôle pour être divertissant. Là. Il est insipide, il a un plan qui fait aucun sens, mais ça, c'est pas très grave, on est dans James Bond, là, c'est pas le plus important. Mais surtout, il n'est pas divertissant. Et même Bond et M se moquent du plan du méchant. C'est pour dire à quel point tout le monde s'en fout en fait dans le film. Les scénaristes, les personnages. Et donc ça devient assez important parce que mine de rien, il va avoir un rôle qui est important pour la suite de l'histoire. Donc le fait d'avoir un personnage aussi insignifiant. Puis après, c'est la même chose. Ramener M, ramener Moneypenny, on ne sait pas trop quoi faire avec ces personnages-là. Et ça, c'est relié clairement au fait que c'est des personnages qui ont été conçus comme étant des personnages pour des épisodiques. Donc des films où, non, ils n'évoluent pas, ces personnages, parce que ça fonctionne quand on est dans cette forme-là. On a une nouvelle aventure, James Bond a toujours l'air de revenir au point zéro. Donc c'est tout à fait logique que ces personnages secondaires, effectivement, soient comme ça. Mais là, quand ça fait à peu près 4-5 films qu'on voit les mêmes, qui n'ont pas plus de trucs à faire, qui n'ont pas vraiment plus de profondeur, le bas commence à blesser. C'est là où il y a quelque chose de contre-nature, en fait, dans ce qu'ils ont essayé de faire.
Ouais, mais en même temps, je trouve qu'ils ont encore la même fonction épisodique, c'est juste que leur rôle, concrètement, est un petit peu plus développé à l'intérieur de la narration. Mais pour moi, ça reste des appareils. Je veux dire qu'on voit Moneypenny un tout petit peu au début d'un Sean Connery ou un petit peu plus longtemps. Comme ça reste cette espèce de fonction un peu à mi-chemin entre le personnage récurrent puis l'espèce de petit point, juste de petit flag sympathique de oui, c'est toujours ces éléments-là vont toujours être là. Moi, je vais t'avouer, ça me dérangeait pas trop que pour boucler la boucle, on offre à Daniel Craig une sorte de James Bond plus classique, justement, où il peut se permettre de faire deux ou trois blagues. Où il y a l'occasion de faire sauter une vraie base de méchants à l'ancienne. Là, c'est un peu comme si sur 5 films, on avait travaillé sur le genre de crescendo auquel la franchise nous avait habitués à ce que ça prenne un film puis qu'à chaque film, on fasse ça. Fait que, comme conclusion à l'ère Craig, on est un petit peu l'ultime retour de ces clichés-là. Ça m'a vraiment somme toute, pas déplu, là, surtout qu'encore une fois, je trouve que même si on s'entend, là, Rami Malek dans ce film-là, c'est vraiment, on peut juste le décrire comme le pauvre Rami Malek. Là, il n'a pas grand-chance de tirer son épingle du jeu parce qu'il n'a à peu près pas de scène. C'est vraiment un méchant qui a à peine la place nécessaire pour exister, alors que pour qu'un méchant fonctionne dans un James Bond, il faut qu'il y ait ses scènes à lui, là, ce qu'il n'y a pas vraiment au-delà de l'introduction, qui reste encore une fois là, mémorable. C'est dommage parce que, sans vouloir trop en dire, le dilemme final qu'offre à James Bond, finalement, c'est peut-être le plus prenant et le plus nuancé auquel un méchant a confronté James Bond en 60 ans. Alors, je comprends ce qui t'a pas plu, puis en même temps, je peux pas m'empêcher de penser que c'est le pari que le film arrive quand même à relever, d'être à la fois un James Bond qui s'écarte peut-être le plus de la formule classique, encore plus que toutes les autres de la période Craig, puis en même temps, qui arrive à donner à son acteur son espèce de dernier acte un peu plus old school, tu sais, mais d'une manière qui est peut-être qui a peut-être plus de portée justement parce qu'il capitalise sur la sérialité que tu mentionnais, tu sais, qui fait que oui, en tant que spectateur, sincèrement, je me suis attaché à ce James Bond-là bien plus qu'à, mettons, un Pierce Brosnan qui se faisait trimballer d'un film à l'autre, tu sais, sans grande direction. Pour moi, No Time to Die, il confirme que Daniel Craig, c'est un peu le croisement entre l'espèce de professionnalisme froid d'un Timothy Dalton, puis l'émotivité assumée d'un George Lazenby. C'est comme si on avait pris ces deux interprétations un peu maudites du personnage-là, puis qu'on avait finalement réussi à explorer un peu les pistes abandonnées qu'il représentait. Puis pour moi, qui est sincèrement un fan de George Lazenby et de Honor Majesty's Secret Service, de voir tous les clins d'œil que multiplie No Time to Die à son interprétation du personnage, ben c'est peut-être ce que je trouve le plus émouvant. C'est quand même avec Lazenby qu'on a pour la première fois essayé d'humaniser James Bond. Puis c'est finalement ça l'aspect le plus intéressant de l'ère Craig. On a réussi à le tenir sur 5 films, ce qu'on a fini par abandonner en l'espace de... Je veux dire, on parle souvent comme si la première fois qu'il y avait une suite directe entre 2 James Bond, c'était Casino Royale puis Quantum of Solace, mais techniquement, c'est pas vrai. C'est Honor Majesty's Secret Service puis Diamonds Are Forever. Donc, c'est ça. Puis, tu parlais de la chanson de Billie Eilish, plutôt, mais la vraie chanson thème de No Time to Die, pour moi, c'est We Have All the Time in the World de Louis Armstrong, la chanson thème de Honor Majesty's Secret Service, justement, qui revient à la fois comme une mélodie qui hante la trame sonore du film, puis qui revient ensuite dans sa version originale en guise de conclusion. Puis, c'est ça, tout ça, ben, pour moi, ça vient vraiment... Comme tu dis, je pense qu'on peut quand même s'entendre pour dire que Daniel Craig a marqué le personnage, puis je pense quand même que c'est une conclusion intéressante à l'ère Craig.
Ah, tout à fait, mais je pense que ce que tu mentionnes, le rapport au service secret de Sa Majesté, il est effectivement carrément littéral dans le film, là, je veux dire, via la reprise de la chanson. Et c'est vrai que depuis le début, il y avait cette idée de ce personnage qu'on va voir évoluer, qui a une physicalité brute, mais avec une vraie profondeur psychologique qu'on n'avait jamais vue avant chez James Bond. Et pour moi, je veux dire, là où je te rejoins, c'est que Craig aura vraiment marqué James Bond de 1, et puis aura probablement été l'interprète le plus intéressant. Là où je diffère un peu, c'est que j'ai l'impression souvent que ce que lui a essayé de faire, les films le suivaient pas tout le temps nécessairement. Tu vois, c'est par exemple justement d'où le fait que pourquoi moi aussi j'aime autant Au Service Secret de Sa Majesté, c'est parce que pour qu'Au Service Secret de Sa Majesté marche, fallait pas juste George Lazenby, fallait aussi avoir Diana Riggs en face, avoir une des meilleures interprète de Bond Girl de l'histoire de la franchise. Là. Parce que si on m'avait fait Au Service Secret de Sa Majesté, encore une fois, c'est une question de sensibilité, là, mais avec le niveau de chimie qu'il y a entre Daniel Craig et Léa Seydoux, j'aurais peut-être pas eu les mêmes réactions. Et pour moi, c'est vraiment le côté typique de la tension qu'il y a dans l'ère Craig, en fait. Entre, je dirais, lui, ce qu'il fait, c'est extrêmement bien. La franchise, elle, est sans arrêt, on le sent là, est tiraillée entre OK, qu'est-ce qu'on maintient de la tradition, qu'est-ce qu'on essaie de renouveler un peu, si on fait quelque chose qui est une histoire qui suit, mince, on reste un peu coincé. C'est parce que je peux pas croire qu'il y ait personne dans la production qui avait réalisé que Spectre a pas super bien fonctionné, a pas été hyper bien reçu, je dirais, parmi les films avec Daniel Craig. Donc je pense pas que c'était forcément l'intention de base de revenir avec, ok, on va ramener les personnages de Spectre, mais sauf qu'on est pris avec, parce que c'est le concept qu'on a établi, donc faut bien qu'on les ramène, puis on va décider d'aller jusqu'au bout, puis c'est là que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui c'est, pour moi, c'était un peu... Et ce film-là, ça le représentait plus que jamais. C'était Daniel Craig versus la production, quasiment. Parce que lui, il donne tout ce qu'il a dans le film. Là, c'est clair. Là, il est hyper émouvant. Et surtout, il nous montre des choses. Je trouve que ce qu'on a négligé, c'est que de film en film, je trouve qu'il est de plus en plus drôle aussi. Parce que tout le monde parle de la charge émotive de No Time to Die, là, qui est, mettons, variable, dépendamment de notre intérêt pour James Bond, là, on s'entend. Mais on entend peu parler du fait que c'est aussi un film qui, par moments, est très, très drôle. Et Daniel Craig, en particulier, peut être vraiment très, très drôle. À un moment donné, il mentionne avec ironie son sens du timing, là, et la façon qu'il a de l'interpréter. Il n'y a aucun autre James Bond qui aurait pu le faire. Là. Je veux dire, ni... et certainement pas Sean Connery, parce qu'il avait trop de... C'est beaucoup trop d'assurance, là. Je veux dire, ça marchait pas, là. Je veux dire, le côté un peu ironique chez Connery. Mais c'est pour ça que la question qui demeure, là, c'est que maintenant que Craig, son ère est terminée, là, c'est vraiment... Qu'est-ce qui va se passer maintenant, là? Où en est la franchise? Et ça, c'est vraiment difficile de répondre, je trouve, parce que il y a 15 ans, l'arrivée de Daniel Craig, ça avait permis effectivement à la franchise de survivre à, grosso modo, on va dire, au 21e siècle. Et à la compétition de plus en plus féroce et intense d'autres franchises d'action. Là, je veux dire que ce soit... Bah, le plus évident, mettons, on va dire, oui, ça s'est inspiré du cycle des Jason Bourne, là, mais le plus évident, c'est le succès phénoménal de franchises comme Fast and Furious, qui clairement ont commencé comme un petit truc, et plus ça avance, plus c'est sur les plates-bandes de James Bond, dans le mode absurde, divertissant, globe-trotter, on fait le tour du monde, enfin, etc. Et il y avait un bon mélange, je trouve, dans Casino Royale. Casino Royale demeure probablement le plus intéressant, j'ai l'impression, de l'ère Craig en bout de ligne. Il y avait un bon mélange entre l'incorporation justement des tendances de l'époque puis le détournement des codes. Donc à l'époque, James Bond, c'était James Bond en apprentissage, donc il ne savait pas s'habiller, il ne prenait pas de cocktail, etc. Et Quantum of Solace, qu'on l'aime ou non, je dirais, a été encore plus loin dans la destruction des habitudes de Bond. Et on dirait que depuis Skyfall, on ne sait plus trop exactement où se rendre. On dirait qu'avec Quantum of Solace, on s'est rendu aussi loin qu'on pouvait dans la destruction des structures habituelles de James Bond. Puis là, maintenant, okay, on ramène à chaque fois, okay, on va ramener les personnages, on va ramener les plans machiavéliques improbables qui n'étaient pas du tout justement dans le renouvellement qu'apportait Casino Royale, parce que le méchant interprété par Mads Mikkelsen demeure un des meilleurs méchants de James Bond, parce qu'il est crédible, il est effectivement glaçant et il n'a pas un plan complètement stupide qui nous fait juste rire, quoi. Et donc là, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant. Moi, mon positionnement, c'est que c'est un peu comme par rapport à Mission Impossible. J'ai l'impression qu'ils ont des problèmes de ton actuellement parce qu'ils essayent trop d'imiter les tendances actuelles en partie, là. Ils perdent pied de plus en plus. En 2006, c'était le bon moment de renouveler Bond. Mais là, la franchise Bond, moi, j'ai l'impression que, à force de l'avoir ancrée dans un côté, dans une sorte de récit au long cours, ultra psychologique, ça le met dans un entre-deux vraiment étrange. Parce que, je veux dire, quelque part, James Bond, c'est pas Dostoïevski non plus. On va arrêter le délire, là. C'est un agent super peu secret, glamour, qui est supposé faire rêver petit et grand. Ce qui est vraiment très très bien, je trouve, dans Casino Royale, c'est qu'il y a encore cet aspect un peu merveilleux du personnage, mais qui est mis au goût du jour. Donc effectivement, le grand enjeu de James Bond, c'est comment on peut garder quelqu'un qui est censé être une sorte de modèle de masculinité sans tomber dans les énormes malaises que peuvent susciter le revisionnement de James Bond pour ceux qui ne les ont jamais vus. Je veux dire, moi, même à la maison, la première fois, on avait revu, il n'y a pas si longtemps que ça, L'Homme au pistolet d'or, qui est avec Roger Moore et Christopher Lee. Et puis L'Homme au pistolet d'or, bon, c'est pas un des meilleurs James Bond, on s'entend déjà en partant, là. Même si Christopher Lee avec trois tétons, c'est quand même quelque chose à voir au moins une fois dans sa vie. Mais mettons que on a regardé le film, j'ai été obligé de l'arrêter parce que le gentil Roger Moore, à un moment donné, dès le début du film, frappe à répétition une femme qui veut pas répondre à ses questions. Et c'est mes propres garçons qui ont fait hey, wow, attends, on n'a pas envie de voir ça, là. Genre, c'est pas un film agréable. Donc il y avait vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Puis on n'imagine pas d'aucune façon Daniel Craig se comporter de cette façon-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup évolué avec la franchise. Maintenant, voilà, je veux dire, je pense pas que personne va sortir de No Time to Die avec des rêves d'évasion et d'aventure autour du monde. Ça reste quand même À un moment donné, la base de James Bond. Là.
Mais en même temps, cette idée de l'espion globetrotteur-là aussi est ancrée dans une vision dépassée du monde, dans la mesure où, je veux dire, cette espèce de fantasme de voyage-là, cette espèce d'exotisme d'avion un peu des années 60, là, c'est aussi ancré dans une certaine époque. Puis, je veux dire, je trouve qu'à ce niveau-là, le film multiplie les ruptures. Puis, je pense qu'il l'assume assez bien. Je trouve que la pirouette narrative de faire de la nouvelle 007 une femme noire, ça fonctionne quand même assez bien. Surtout en guise de réponse assez culottée aux gens qui déchiraient leur chemise à l'idée qu'un Idris Elba, par exemple, soit même considéré pour interpréter James Bond. T'sais, j'ai un peu l'impression que les producteurs, ils ont décidé d'aller un peu plus loin juste pour faire encore plus chier ceux que ça faisait déjà chier, que ce soit une idée. Puis franchement, j'ai trouvé ça amusant. Puis on pourrait dire que c'est un move qui est dans l'air du temps. Là. Je comprends la critique, mais on ne sait pas trop non plus où il va mener à long terme. On ne sait pas si vraiment ça va être elle qui va interpréter le prochain James Bond. Mais en même temps, je trouve que tout ça, ça s'inscrit dans l'exercice de déconstruction du personnage qui a été amorcé pour être généreux là, depuis les deux ou trois clins d'œil ironiques à la désuétude de James Bond dans GoldenEye. Là. Mais quand Daniel Craig il dit à Rami Malek qu'il est dernier d'une ligne de petits hommes fâchés, c'est évident qu'il s'inclut aussi dans l'équation. Puis même si ça reste relativement modéré comme remise en question, je trouve d'une certaine façon qu'elle est moins conceptuelle et plus incarnée à cause, justement, pour revenir une dernière fois à cette espèce de travail sur la durée, sur les 15 ans de Daniel Craig, c'est que c'est plus juste une ou deux répliques un peu métaréférentielles qui viennent souligner des idées. Le film se permet quand même des revirements de situation qui transforment le personnage. Puis ça, au bout du compte, je trouve qu'il fait quand même plutôt bien parce qu'à la fin du film, j'ai ressenti des choses que je ne m'attendais pas nécessairement à ressentir dans un James Bond. Puis j'ai en même temps eu ma dose de gadgets un peu niaiseux qui font exploser des yeux bioniques que je pense que ça faisait quand même un bout de temps qu'on n'avait pas eu autant, si ça n'avait pas été aussi assumé que ça. Puis j'ai vraiment aimé, je veux dire, il y a une scène dans un escalier, puis ça faisait longtemps que j'avais pas vu une bonne fusillade d'escalier, fait que j'ai été servi. Mais bon, je pense qu'on a quand même parlé généreusement de ce nouveau James Bond-là. Je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. Donc, No Time to Die est en salle en ce moment même. Je pense pas que vous aviez besoin du balado de l'opinion ou de 24 images pour vous convaincre ou non de vous déplacer en salle pour celui-là, mais bon, c'était notre avis sur le film. Donc, merci Bruno d'être venu en parler avec moi. C'est toujours un plaisir.
Merci.
Le cinéaste japonais Eiichi Yamamoto nous a quittés le 7 septembre dernier à l'âge de 80 ans. Il était surtout connu des cinéphiles pour sa Belladonna de la tristesse, un classique culte de l'animation sorti en 1973, mais il est aussi responsable de la réalisation de plusieurs des séries inspirées de l'œuvre du géant de la bande dessinée japonaise Osamu Tezuka. En fait, en dehors de la Belladonna de la tristesse, l'œuvre de Yamamoto est assez peu connue en Occident. Alors, pour lui rendre hommage et essayer de remédier à ça, j'ai décidé d'inviter Mathieu Ligoyette au balado de 24 images pour qu'il nous en parle un peu. Bonjour Mathieu.
Bonjour Alexandre.
Alors, je l'ai déjà mentionné rapidement, mais je pense qu'on peut difficilement parler de Yamamoto sans parler d'Osamu Tezuka. Dans le contexte d'un podcast de bande dessinée, je pense que Tezuka se passerait de présentation étant donné que c'est incontestablement un des artistes les plus importants de l'histoire du 9e art. Mais vu qu'on est au balado de 24 images, je pense que ça pourrait valoir la peine d'expliquer un peu qui c'est Tezuka afin de situer un peu mieux peut-être aussi l'œuvre de Yamamoto.
Ben oui, absolument. Bon, Tezuka, ce qu'on dit généralement de lui, c'est que c'est un peu le parrain du manga. C'est la figure tutélaire du manga d'après-guerre qui va changer complètement la manière de faire de la bande dessinée au Japon. Il va essentiellement être derrière la cristallisation de cette forme sous un certain format sériel qu'on connaît encore jusqu'à aujourd'hui. Il a été, disons, l'instigateur principal de la rénovation du seinen après la guerre, fait que du manga destiné aux jeunes garçons. Il va aussi être l'instigateur principal du shoujo d'après-guerre à travers Princess Knight, donc ça c'est le manga destiné aux jeunes filles. Et puis il va connaître plusieurs crises existentielles au fil de sa carrière, notamment des années 60 et 70, où est-ce qu'il se remet radicalement en question, puis c'est des remises en question, donc ils vont le mettre sur des chemins beaucoup plus expérimentaux, beaucoup plus radicaux. Fait qu'avec Tezuka, on a non seulement un peu le grand inventeur, un peu le Walt Disney, pour le dire vite, du manga au Japon, mais aussi un des artistes les plus avant-gardistes du manga. Et aussi, clairement, sans doute, le BDiste qui a le plus dessiné de planches de l'histoire de la bande dessinée, avec une production, on parle d'au moins 160 000 planches.
Ce qui est incroyable.
Ça n'a aucun bon sens. Puis c'est pas comme si c'était du mauvais stock non plus. Fait que Tezuka, Pour en venir à Yamamoto, dans le fond, hein, Tezuka, il faut vraiment voir sa place dans la vie de Yamamoto comme celle d'un mentor, qui est absolument incontournable. C'est-à-dire que donc Tezuka, on le sait, il est surtout connu pour ça, invente Astro Boy dans les années 50 en manga. Environ une dizaine d'années après que le manga soit publié régulièrement et connaisse un vif succès, Tezuka décide de se lancer dans l'animation. L'animation industrielle pour la télévision et donc de faire une version télévisée d'Astro Boy qu'il va produire lui-même avec son propre studio, Mushi Productions. Ensuite de ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, Tezuka engage Yamamoto au début de l'histoire de Mushi Productions et donc Tezuka est à la recherche, dans le fond, de vendre son pilote. Il fait le premier épisode d'Astro Boy que Yamamoto réalise. Il réalise un pilote qui va être excessivement complexe pour l'époque et qui va, disons, instaurer dès le départ ce que les gens, jusqu'à aujourd'hui, dans l'industrie de l'animation au Japon, appellent la malédiction de Tezuka. C'est-à-dire que Tezuka, lui, voulant damer le pion de tous ses autres compétiteurs au niveau de l'animation, propose son show à la NHK notamment. Il veut aussi que son show soit acheté par les Américains, ce qu'ils vont faire ultimement à la fin de sa première année de diffusion. Ça veut dire que Astro Boy sera non seulement le premier animé vraiment grand public sérialisé sur la télévision au Japon, et moins d'un an plus tard, il devient aussi le premier animé à être exporté en dehors du Japon. Donc vraiment, l'animation japonaise telle qu'on la connaît encore aujourd'hui, elle naît un peu autour de cette période très très névralgique-là, autour d'Astro Boy, c'est-à-dire en 62-63. Donc Yamamoto est à la réalisation du pilote, et là, Tezuka, voulant donc passer devant les autres studios qui sont en train de produire de l'animation, décide de vendre son pilote pour à peu près 4 fois moins cher que ce que ça lui a coûté de le produire. Ça établit donc un coût qui sera impossible à respecter par la suite parce que les épisodes vont constamment coûter plus cher que ce qu'ils rapportent au studio. En échange, ce que Tezuka va essayer de faire pour compenser, c'est inventer une myriade de produits dérivés. Avec non seulement des figurines, mais aussi des modèles à coller, des casse-têtes, des boîtes à lunch, etc. Puis ce qui va vraiment donc créer un peu d'un seul coup en dedans d'un an cette industrie aussi du produit dérivé qui est aussi associée à la culture du manga, de l'animé, qui est aussi fondamentale aussi dans toute la constitution des cultures otaku qu'on a vu depuis. Donc, cela étant dit, ce qui est important de savoir par rapport à cette période vraiment névralgique, c'est que Yamamoto donc travaille sous ces contraintes extrêmement intenses sous un Tezuka qui lui dit constamment « il faut que ça coûte moins cher, il faut que ça coûte moins cher ». D'où ce principe de malédiction de Tezuka qui plane depuis le temps dans l'animé et qui, dans le fond, est un peu la base historique, mais aussi théorique, du fait que dans l'animé, la fibre esthétique de l'animé joue toujours dans cette espèce de réseau de contraintes. Comment faire pour raconter des histoires avec le moins d'images possible? Comment faire pour créer des impressions de mouvement avec finalement le moins d'animation possible? Fait que c'est des questions quasiment d'assaise au niveau de l'animation, où dans le fond l'animation va vraiment gagner en mouvement, en vélocité, à travers des procédés qui vont être des procédés quasi mathématiques, dans la manière dont, c'est un petit peu de la théorie technique, mais de la manière dont par exemple on va faire en sorte qu'un arrière-plan va changer à intervalle de 2 frames, par exemple, de 2 photogrammes, alors que ce qui va se passer à l'avant va changer à un intervalle d'un photogramme. Fait que Tezuka et Yamamoto vont jouer comme ça sur différentes sortes de rythmes, différentes sortes de régularités de l'image, qui va créer des impressions de rythme avec des images sur 1, sur 2, sur 3 temps ou sur 4 temps. Puis en jouant là-dessus, ils vont comme un peu déconstruire les règles qui avaient déjà été mises en place jusqu'à présent par l'animation de Walt Disney, par l'animation de Tex Avery, et qui va donc proposer une sorte d'animation fondamentalement minimaliste et qui va évidemment non seulement beaucoup marquer le travail de Yamamoto, mais aussi de l'ensemble de l'industrie de l'animation.
Tu dis minimalisme, puis ça nous amène vraiment naturellement à la belladonna de la tristesse, parce que quand on parle de minimalisme en animation, on a affaire à un film où il y a un peu de mouvement de temps en temps, mais l'essentiel du film est fixe. C'est quand même incroyable. J'imagine que c'est une sorte de une trace, disons, de cette école de pensée-là.
Ben absolument. Plus qu'une trace, c'est un petit peu, à l'époque, la conclusion de toute l'aventure de Mushi Production. En fait, à la fin des années 60, Tezuka traverse une grave crise de conscience artistique. Il a l'impression, en fait, d'être devenu l'ennemi industriel contre lequel il voulait se battre 15 ans, 20 ans avant. Il va être très attristé par ça, tombe en dépression, tentative de suicide, ça va vraiment pas bien. Mushi Production va devoir bientôt mettre la clé sous la porte. L'aventure Astro Boy s'est terminée. Entre-temps, il y a aussi eu Kimba le Lion, que Mushi a produit, que Yamamoto a réalisé en grande partie aussi. Donc, cette aventure-là va un peu se terminer avec un dernier coup d'éclat, c'est-à-dire que Tezuka, il prend, donc dans le fond, l'infrastructure de Mushi Production, qui a toujours, à ce moment-là, fait de l'animation que pour les enfants. Et là, Tezuka va essayer de proposer une espèce de nouvelle sorte d'animation pour adultes, beaucoup plus radicale, beaucoup plus subversive, et qui va ressembler finalement beaucoup plus à ce qu'il commence à faire à la même époque en manga. Donc dans des choses qui sont traduites aujourd'hui, qui sont très belles, comme The Book of Human Insects ou comme Ayako, donc des séries que Tezuka va faire en manga, et qui sont beaucoup plus radicales que ce qui se faisait avant. Et donc cette série-là, il va donc démarrer une série chez Mushi Production qui va s'appeler Animerama. Et Ichi Yamamoto va être en charge de réaliser les 3 épisodes de la trilogie Animerama, qui va être une trilogie en fait d'animation érotique. Ce qui est une chose qui ne se faisait pas vraiment au Japon à l'époque, et qui aussi, il ne faut pas l'oublier, se produit à peu près en même temps où vous avez des studios comme la Nikatsu qui font le virage radical vers le Pinkuega. Vers le roman de porno en fait, et qui va donc finalement changer l'industrie mainstream du Japon et qui va participer globalement à l'érotiser un peu à travers toutes ses productions. Donc en fait, c'est ça, La Belle Adonna de la Tristesse, c'est le 3e et dernier épisode de cette trilogie Animerama. C'est effectivement extrêmement fixe, extrêmement subversif, très tourné vers une esthétique contre-culturelle. C'est beaucoup plus près, en ce sens-là, de ce qu'on retrouvait à l'époque, par exemple, dans un magazine comme Garo, qui était un magazine de manga où était publié beaucoup de Gekiga, qui était un manga beaucoup plus adulte, beaucoup plus engagé politiquement aussi, beaucoup plus érotique aussi. Et donc, La Belle Adonna de la Tristesse s'inscrit davantage dans cette tendance-là, tendance qu'on trouve chez Garo, tendance qu'on retrouve aussi dans la BD franco-belge, et donc qui s'inscrit dans un certain moment culturel qui est non plus pas loin de ce qu'on voit en termes d'animation plus expérimentale dans les mêmes années. Je pense par exemple, à Yellow Submarine aussi.
Oui, il y a des séquences qui font beaucoup penser. Vraiment penser à ça. Pense à la peste noire, là, par exemple, dans le film. Là,
absolument.
C'est vraiment clair qu'il y a un peu de ça.
Ben oui, avec tous les personnages qui commencent à se transformer en animaux aussi. Il y a vraiment un trait qui est super fluide dans ces scènes-là. Puis je dirais que la matrice formelle de La Belle Adonna de la Tristesse est très intéressante parce qu'elle fonctionne justement comme des espèces de paris esthétiques que le film se lance constamment un peu face à lui-même. C'est-à-dire que c'est un film qui commence par une très, très grande image fixe sur laquelle la caméra va paner pendant de longues minutes. Et puis on va se promener comme ça dans des fresques de manière très panoramique. Et finalement, il va comme y avoir des excès de violence ou des excès de détresse qui vont s'accompagner d'une trame sonore qui est vraiment splendide et qui va venir faire s'animer tout ça de telle sorte à ce que l'animation, dans le fond, invite à une forme cauchemardesque. Puis en même temps qu'elle invite à une forme cauchemardesque, elle invite à une sorte de déconstruction de ce qu'on a vu jusqu'à présent comme étant le régime esthétique que le film avait institué. C'est-à-dire que c'est vraiment un film qui porte sur l'institution, sur le pouvoir, puis en l'occurrence le pouvoir de Prima Nocta, c'est-à-dire le droit qui est un peu mythique, mais qui est quand même symboliquement resté fort à travers les âges, qui est ce droit donc pour les régents du Moyen-Âge de passer en fait la première nuit avec une nouvelle épouse à la suite d'un mariage d'un de ses sujets. Puis donc le film va déconstruire cette première... va déconstruire en fait la relation du couple après cette première nuit-là, puis va mener vers une sorte de récit d'émancipation où finalement, dans le fond, la femme réussirait à s'échapper de la grippe de l'homme, non seulement de la grippe de son seigneur, mais aussi de toutes ses contraintes maritales et sociétales qui, dans le fond, la tenaient prisonnière.
Oui, autour de la figure de la sorcellerie puis de la sorcière, en fait, ce qui est très intéressant aussi parce que c'est un film qui est surprenamment proto-féministe quand même dans le contexte du Japon qui est une culture particulièrement patriarcale. Donc c'est quand même un film qui est assez radical dans ses idées, j'ai l'impression, dans le contexte culturel spécifique du Japon.
Absolument. Ben, Yamamoto est assez fascinant pour ça, parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans le reste de sa carrière, mais c'est un des animateurs japonais qui est le plus près, je dirais, de la culture européenne. La Bellanana de la Tristesse, d'emblée, c'est une adaptation d'une monographie d'un historien, Jules Michelet, qui est un peu le chantre de l'histoire révolutionnaire en France, et qui, en 1862, publie La Sorcière, qui est un livre à scandale, qui essaie à l'époque de réhabiliter, dans le fond, la figure de la sorcière comme étant une figure de victime d'abus de pouvoir, ce qui va évidemment nourrir la rhétorique révolutionnaire. Et donc, c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que le film de Yamamoto se termine de manière assez surprenante.
Totalement, surprenante, on va se le dire. Je ne l'avais pas vu. Dans un film où je ne voyais rien venir, ça, je n'avais pas vu venir ça.
Non, c'est ça. C'est un peu la cerise sur le sommet de la surprise là, qu'on arrive à la fin. Ça. Donc, des images de la Révolution avec la Dame Liberté qui ça finit avec un close-up sur elle qui brandit le drapeau français. Ce qui est clairement, c'est ça, un virage assez impressionnant. Mais donc oui, c'est ça, exactement. C'est un film qui est extrêmement, disons, féministe pour son temps, surtout quand on le regarde aussi dans le contexte du cinéma japonais, puis aussi dans sa manière, dans le fond, de travailler le corps, puis de déconstruire ce rapport au corps. Parce qu'on n'est pas... disons, dans des pinku ou dans des romans de porno de la Nikatsu de la même époque, il y a d'autres films, dans le fond, qui portent sur des viols qui soient réels ou symboliques et qui, dans le fond, sont des critiques de la manière dont la société, par exemple, va traiter les femmes. Mais dans le cas de Yamamoto, cette critique passe à travers un corps qui demeure extrêmement animé, extrêmement plastique, qui est aussi un corps qui sait, dans le fond, se glisser sous d'autres formes, puis, dans le fond, apprendre des espèces de pouvoirs surnaturels, parce qu'elle devient finalement une sorte de sorcière. Elle finit par s'approprier un certain pouvoir d'action sur le monde qui va l'aider, dans le fond, à s'émanciper de tout ça. Puis ce qui est assez beau, c'est de voir comment toute l'animation va réagir à cette émancipation, comme si l'animation elle-même apprenait à s'émanciper, au même rythme que la femme dans le film apprend à s'émanciper. Tellement qu'à la fin, on arrive avec des compositions qui sont magnifiques, puis qui alternent aussi avec différents registres de réalisme. On passait de l'aquarelle au dessin, à la peinture à l'huile. On va aller dans des registres qui sont beaucoup plus près, parfois quasiment du storyboard, parce que c'est vraiment juste une ligne très très mince sur du papier blanc. Puis d'autres fois, on va être dans quelque chose d'extrêmement travaillé, beaucoup plus psychédélique, avec plein de couleurs. Et tous ces registres-là, dans le fond, sont un petit peu finalement une espèce d'hommage à la résilience à travers les âges, donc à travers les formes que va prendre cette héroïne.
Au-delà de la Belladonna de la Tristesse, j'ai l'impression qu'on parle jamais des autres films ou de ce que Yamamoto a pu faire après ce film-là. Peux-tu nous en parler un peu? J'imagine que soit tu en as vu, soit tu as lu là-dessus.
Oui, ben, c'est assez intéressant dans le fond, parce que Yamamoto, donc, il a clairement jamais fait un meilleur film que la Belladonna de la Tristesse. Ça, c'est sûr. C'est en 73. Après ça, il va quand même se revirer de bord assez rapidement parce que l'industrie de l'animation, après quelques années un peu de disette au Japon, va connaître un grand regain autour, là, non pas des œuvres de Osamu Tezuka, mais autour des œuvres d'un autre parrain du manga, qui est Leiji Matsumoto. Donc, à travers Leiji Matsumoto, donc le type qui est derrière Albator, Captain Harlock, Space Battleship Yamato, Galaxy Express 999, donc, dans le fond, le maître de la science-fiction japonaise des années 70, Yamamoto va beaucoup travailler avec Matsumoto, va devenir un peu le type en charge de porter à l'écran ses mangas. Fait qu'il va superviser la scénarisation de tous les épisodes de Space Battleship Yamato, qui va être la première série à vraiment inaugurer ce grand courant de science-fiction à la télévision, donc en 74-75. Il va réaliser aussi beaucoup de ces épisodes-là. Et il va aussi beaucoup être responsable de quelque chose qu'on retrouve à la télé dans ces shows-là et qu'on ne retrouvait pas nécessairement dans les mangas, et c'est-à-dire l'assemblage d'une communauté en fait de personnages secondaires autour la figure, par exemple, du capitaine. Capitaine Harlock, par exemple, ou Albator, on connaît bien la figure, mais on connaît aussi, à travers ces émissions-là, beaucoup tous les personnages qui l'entourent. Les pilotes du vaisseau, le robot un peu cochon, l'espèce de prophétesse de l'espace qui arrive dans on sait trop où. Donc, des personnages qui vont constituer une communauté qui va vivre un peu dans une espèce de huis clos sur un vaisseau, qui va vraiment être une espèce de communauté de corsaires, en fait. Une communauté de gens assoiffés de liberté, ce qui va beaucoup parler à la jeunesse japonaise des années 70, qui est dans une perte totale de repères après une décennie de manifestations qui ont mené à rien, et qui, là, sont vraiment dans une espèce de bouillon culturel où est-ce qu'ils se disent, OK, autant se retirer de la société, en quelque sorte, et fonder nos propres sociétés utopiques. Et c'est ce qui va finalement être à la base de la constitution des communautés otaku, qui vont donc voir dans ces animations-là, qui sont beaucoup attribuées à Matsumoto, mais qui sont finalement beaucoup produites, réalisées par Yamamoto, un peu la base de leur réorganisation communautaire. Parce que ce qui est à la base du principe de la communauté otaku, c'est vraiment dans le terme, mais otaku, ça veut dire l'appartenance à un cercle. Et c'est ce que ces émissions-là, c'est ce que ces épisodes-là, Yamamoto, vont vraiment proposer, une sorte de sortie du monde, mais en communauté. Et ce qui est aussi quelque chose, là, quand on prend le temps de regarder ce qu'il a fait, par exemple, avec la Belladonna ou le reste de la trilogie Animerama, quelque chose qu'on retrouve, en fait, dans l'essentiel de sa carrière, qu'on va voir aussi par la suite. Dans les années 80, il va faire un autre long métrage, en fait, qui est assez intéressant, assez cabochon aussi en même temps. Ça s'appelle Odin, Photon Space Sailor Starlight, qui est une histoire de bateau interstellaire, qui est une espèce de vraiment un très très bizarre de film. Il va faire un autre truc assez érotique, un peu dans la lignée de la Belladonna, qui s'appelle The Sensualist. Puis après ça, ben, il va un peu devenir une espèce de légende. Mais une légende qui va, surtout être connue en Occident pour la Belladonna, mais sinon au Japon, va surtout être un peu un réalisateur qui plaît surtout aux autres animateurs, aux autres réalisateurs. Quelqu'un qui vraiment qui a battu plusieurs frontières formelles au niveau de l'animation, mais qui en même temps n'a jamais eu, le spotlight que Tezuka ou Matsumoto ou plus tard Miyazaki ou Hideaki Anno auront eu. Même si, concrètement, au niveau même de la technique d'animation, c'est clairement un des innovateurs les plus importants de l'histoire de l'animation japonaise.
Oui, parce que c'est clair que si tu es le chaînon manquant ou le lien invisible entre Tezuka et puis Matsumoto, t'es quand même un peu l'histoire de l'animation japonaise à toi tout seul.
Absolument, c'est absolument incontournable. Puis c'est vraiment ça que Yamamoto a été.
Donc, on vous invite à découvrir l'œuvre de Eiichi Yamamoto à travers, évidemment, la Belladonna de la tristesse. Merci, Mathieu, d'être venu au balado de 24 images pour nous parler de son travail.
Merci pour l'invitation.
Merci aussi à Bruno, qui est venu nous parler de James Bond plus tôt dans l'émission. Évidemment, c'est le FNC en ce moment, donc continuez d'aller en salle. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode du balado de 24 images où on va vous offrir nos réflexions un peu rétrospectives sur le Festival du Nouveau Cinéma. Donc, on se dit à dans 2 semaines et d'ici là, bon cinéma. Thank you.